Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous présenter la toute première émission de radio du lycée français de Bilbao.
Alors, dans cette émission, nous ferons les présentations avec le nouveau proviseur et la nouvelle bibliothécaire.
Ensuite, nous reviendrons sur les élections internes à l'école.
Enfin, un petit moment de culture avec une lecture choisie de Bram Stoker qui nous rappellera Halloween.
Nous en apprendrons aussi un peu plus sur la Méditerranée moyenâgeuse.
Merci et bonne écoute.
Bonjour, nous sommes Sophie Artola, Eugenia González et Emma Palomino. Et pour cette première émission radio, nous allons interviewer le nouveau directeur qui vient d'arriver du lycée français de Shanghai, Monsieur Dufaye de la Tour. Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous, tout se passe bien?
Oui. Aujourd'hui, on va vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur vous et votre expérience en Shanghai. Pour commencer, est-ce que ça a été facile pour vous de vous adapter à la culture asiatique à Shanghai?
Alors c'est pas facile de s'adapter à la culture asiatique parce que la langue est un obstacle. Moi, je parlais pas chinois en arrivant à Shanghai. Je ne parle pas très bien, à part quelques expressions courantes, on va dire, encore aujourd'hui. Et je pensais, peut-être un peu naïvement, que Shanghai étant une ville très internationale, j'allais pouvoir utiliser facilement l'anglais, qui était aussi une langue de travail au lycée, en plus du français. Mais finalement, peu de Chinois dans la vie quotidienne parlent l'anglais suffisamment bien pour qu'on puisse échanger en anglais.
Est-ce que l'éducation est très différente en Espagne et en Chine?
Dans la mesure où moi je travaillais déjà dans un lycée français, il y a beaucoup de similitudes finalement. Si on parle des systèmes d'enseignement locaux, l'école chinoise et l'école espagnole, là par contre oui, ça devient très différent. L'école chinoise c'est très très académique, on apprend beaucoup par cœur, alors que pour nous, par exemple, à l'école française, on apprend plutôt à penser de façon autonome, à construire notre raisonnement, à expliquer notre raisonnement intellectuel. Donc, c'est deux conceptions un peu différentes de l'enseignement.
Quelles sont les choses qui vous ont le plus impacté par la culture asiatique?
En termes d'influence, ce qui m'a le plus impacté, finalement la capacité de travail des élèves en Chine. Finalement, ils n'ont presque jamais assez d'heures à leur emploi du temps. Ils sont toujours demandeurs de plus d'enseignements, de plus d'options, de plus de cours. Plus on propose d'options, plus ils en prennent. C'est assez révélateur je trouve, c'est une différence culturelle importante, majeure.
Est-ce que vous aviez déjà été en Espagne, plus concrètement au Pays Basque?
Avant d'arriver à Bilbao pour y travailler, ouais. Non, c'est ma première, incursion dans le Pays Basque et je découvre une très belle région et des gens très chaleureux, très accueillants. C'est un vrai plaisir d'être ici.
Et est-ce que vous avez été content de savoir que vous alliez travailler à Bilbao?
J'étais très content parce que je l'avais demandé. Ça faisait partie des vœux que j'avais formulés pour ma poursuite après Shanghai. Donc quand on m'a proposé le poste de Bilbao, bien évidemment, j'étais très heureux de rejoindre cette région. Et il y a une proximité aussi avec la France et moi qui suis installé dans le sud-ouest, en France, finalement une proximité géographique qui me change beaucoup par rapport à Shanghai et la distance qu'il pouvait y avoir avec la France.
Merci beaucoup monsieur pour votre temps et pour l'interview et à bientôt.
Merci à vous et félicitations pour ce beau projet, à ce groupe d'élèves qui s'investit dans la web radio et puis aux professeurs qui vous accompagnent. Merci beaucoup.
Bonjour madame, comment ça va? Et on a des questions pour te poser. Et pourquoi n'étais-vous plus professeur de français?
Alors bonjour Kerman. Je ne peux plus être professeur de français parce que j'ai eu des soucis de santé. Et le médecin a décidé que le travail en tant que professeur en classe était trop difficile pour mon état de santé et n'était pas bon pour moi. Mais je vais continuer à être professeur de français toute ma vie. Hein. Vous ne me voyez pas faire cours de français dans les salles, mais je continue à être professeur de français.
Et en quoi consiste votre nouveau rôle ?
Alors, eh bien maintenant je suis au CDI et je m'occupe d'essayer de créer un lieu qui soit un lieu convivial où vous puissiez tous trouver votre bonheur quand vous avez besoin de lire, d'être tranquille, de travailler. Ou même parfois il y a des élèves qui ont besoin de dessiner, qui ont des heures d'études et qui n'ont pas envie d'être dans le bruit dans une salle d'études, ils viennent ici. Donc moi mon but c'est de créer un espace qui vous plaise, où vous soyez à l'aise, où vous vous sentiez bien et on puisse travailler ensemble, lire. Il y a beaucoup de choses à faire dans un CDI.
Aimez-vous vos nouvelles tâches au CDI ?
Alors, oui, j'aime beaucoup, surtout parce que je constate avec plaisir que vous êtes nombreux à venir au CDI pendant les récréations, mais aussi pendant les heures où vous avez études. Vous décidez de venir ici pour lire, et il y en a beaucoup qui découvrent... certains supports de lecture, par exemple les bandes dessinées. Et oui, je suis contente. Je vais petit à petit, mais je suis contente. Et je pense que je vais apprendre encore plein de choses.
Qu'est-ce que vous aimez plus, votre travail d'avant ou celui de maintenant ?
Alors, en fait, j'aime les deux. Parce que les deux postes me permettent d'être en contact avec vous, avec les élèves. Et ce qui me plaît, c'est d'être en contact avec vous. Donc, je me réveille tous les matins en venant pour venir au lycée. Et je suis contente de venir au lycée travailler.
Quel est votre livre préféré ?
Oh, mon livre préféré ! C'est difficile, ça. Hein ? C'est très difficile. Mais il y en a un que j'aime particulièrement. Vous ne l'avez pas encore lu parce que vous êtes encore trop jeune, mais c'est un auteur David Fuenquinos et j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'une jeune femme, le livre s'appelle Charlotte. De cet auteur j'aime beaucoup les livres. J'en ai lu un là, c'était La Délicatesse aussi, j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Mais un livre préféré, c'est difficile de trouver un seul livre préféré.
Et avez-vous fini avec les changements du CDI ?
Oh non. Nous sommes en train de travailler tous ensemble avec les élèves pour essayer de continuer à ce que le CDI soit vraiment un lieu agréable pour vous, que vous veniez ici pour travailler avec des professeurs ou sans professeurs. Et c'est pas encore fini. J'espère. De toute façon, je pense qu'un CDI, il va pas être terminé. On va continuer à faire des choses. Pendant longtemps. Bon, je vous attends au CDI tous les trois.
Okay.
Quand vous avez une heure d'étude, vous pouvez venir ici, lire. D'ailleurs, il y en a qui... Vous faites allemand tous les trois ?
Moi, oui, mais non.
D'accord. Quand vous faites allemand, quand vous ne faites pas allemand, vous êtes là avec moi. Il y a plein de choses à faire. Okay ?
Ok ?
Bon, allez. Et
merci.
Maintenant, vous avez cours de quoi ?
Anglais.
D'anglais. Allez.
Merci.
Au revoir. Au revoir. Et merci.
Bonne journée à tous, nous allons vous parler des élections de délégués, le CVL et les éco-délégués. Tout d'abord, on va vous expliquer ce que le CVL, les délégués et les éco-délégués représentent et quel est leur rôle. Nous terminerons par expliquer l'importance des représentants.
Et qu'est-ce qu'un représentant au CVL ?
Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce que c'est le CVL. Le CVL, c'est le comité de vie lycéenne, qui constitue un lieu de dialogue et d'échange entre les représentants et les adultes. Celui-ci a pour but d'améliorer la vie des lycéens.
c'est-à-dire que les représentants du CVL représentent l'ensemble des lycéens et diffusent leurs paroles. Ils se rassemblent pour réfléchir à des aménagements pour l'amélioration de la vie des lycéens, et le vice-président du CVL les présente au conseil d'établissement. Il est important de remarquer que la parole du vice-président compte autant que les autres, ce qui donne beaucoup de force à la parole des lycéens.
Un représentant au CVL a donc pour mission de transmettre la vie des lycéens et leurs besoins, dans le but de faire un lien entre lycéens et adultes. Les élections se font par mail, ceux-ci répondent le vote plus facile et rapide.
Quel est le rôle des éco-délégués ?
Les éco-délégués, c'est un groupe d'élèves engagés qui ont envie d'agir pour la planète. Pour cela, ils mettent en place des démarches écologistes, telles que limiter la consommation et promouvoir le tri des déchets et le recyclage. Aujourd'hui, la présentation à éco-délégués se fait par volontariat et peuvent participer les plus petits et les plus grands.
Et les délégués de classe ?
Les délégués de classe sont élus par leurs camarades pour les représenter au conseil de classe. Les délégués doivent transmettre les besoins de leurs camarades et s'en faire le porte-parole au conseil de classe. Leur voix compte et peuvent montrer un autre point de vue comme il s'agit. On voudrait féliciter les élus délégués et les représentants du CVL.
Finalement, est-il important d'avoir des représentants au CVL, des délégués de classe ou des éco-délégués ?
La réponse est claire. Il est très important d'avoir des représentants car ils prennent part aux décisions qui vont ensuite nous toucher. Leur voix compte autant que celle des adultes, ce qui nous permet à nous, lycéens, de nous exprimer et de nous faire entendre. De plus, on est usagers, ce qui permet de transmettre un point de vue différent et nous impliquer dans la vie du lycée.
Bonjour à toutes et à tous. Quand je suis venu au Pays Basque pour la première fois, on m'a dit que pour mieux m'intégrer, il fallait que je m'intéresse au football local. Ok pour le football, mais quel club choisir ? Il y en a à foison. Athletic Bilbao, Real Sociedad, Alaves, Osasuna, Eibar, etc. Lequel choisiriez-vous ? Bon ben, j'ai pas mal réfléchi et je me suis renseigné et après mes réflexions, je pense que le plus important c'est l'Osasuna. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est l'Osasuna, la santé. Encore mieux, on peut être des todos à la veste. Enfin, pour terminer, une dédicace spéciale pour les terminales qui suivent la spécialité mathématiques. Je pense qu'il faut être comme la fonction exponentielle, s'intégrer mais rester soi-même, s'incorporer sans renier sa nature primitive. Par exemple, moi dans la voiture, j'ai toujours une paire de claquettes pour mon côté pacifique. Sinon, une bonne façon de s'intégrer dans un nouveau pays, c'est d'en apprendre là où les langues. C'est ce que j'ai fait.
As Halloween is coming, the students are going to read some extracts of a book that I think everyone has heard about. The book is called Dracula. It was written by Bram Stoker in 1897.
Dracula is the most famous literary creation of vampires. The lawyer Jonathan Harker discovered that in Dracula's castle, he behaves like a vampire at night. Harker followed Dracula to England, who went there to look for new victims.
Jonathan Harker's Journal, 4th May. Jonathan is in Transylvania. He was invited by the Count Dracula. He arrives in his castle. I was standing in front of a huge door, wondering what to do, when I heard a heavy step behind the door and saw the glow of a light. A key was turned with a loud noise as if it hadn't been used for years, and the door swung open. Inside stood a tall old man dressed in black from head to foot. He had a hooked nose, and the mouth under his heavy hooked white mustache was rather cruel looking. With very sharp white teeth, his ears were pale and extremely pointed, and his fingernails were long and cut to a sharp point. "Welcome to my house," he said. "Enter freely and of your own free will. I am Dracula, and I welcome you, Mr. Harker, to my house." Mina Murray's Journal, 11th August. Mina invited her friend Lucy to stay with her. The girls sleep in the same bedroom. I woke suddenly around 1 a.m. and found Lucy's bed was empty and the door wide open. I threw on some clothes and ran out to look for her. There was a bright full moon and heavy black clouds. Then, as the clouds passed and the churchyard became visible, I saw Lucy sitting on one of the benches. It seemed to me as though something dark was standing behind her with a white face and red, shining eyes. I ran down the steps and called in fright, "Lucy, Lucy," but by the time I reached her, she was quite alone, and there was not a sign of any living thing about. When I bent over her, I could see that she was still asleep, but she was breathing heavily. I took her back to the house, and as I was putting her into bed, I noticed that there were 2 little red points on her neck, and on her nightdress there was a drop of blood.
The Professor Archer, Kinsey, and I have all been taking turns watching over Lucy so that she is never alone for a moment. At 6 o'clock, Van Helsing came to take my place. When he saw Lucy's face, he bent down and examined her carefully, and I noticed that her teeth looked positively longer and sharper than usual. As he removed the garlic from around her neck, he shouted, "My God!" I bent over to look and a chill came over me. The spot on her throat had completely disappeared.
Let's do this again.
Jonathan Harker's journal. For May. Jonathan is in Transylvania. He was invited by the Count Dracula. He arrives in his castle.
I was standing in front of a huge door, wondering what to do when I heard a heavy step behind the door and saw the glow of a light. A key was turned with a loud noise, as if it hadn't been used for years, and the door swung open.
Inside stood a tall old man dressed in black from head to foot. He had a hooked nose, and the mouth under his heavy white mustache was rather cruel-looking, with very sharp white teeth. His ears were pale and extremely pointed, and his fingernails were long and cut to a sharp point.
"Welcome to my house,"
he said.
"Enter freely and of your own will. I am Dracula, and I welcome you, Mr. Harker, to my house."
I ran down the steps and got in fright.
Minna Murray's journal, 11th of August. Minna invited her friend Lucy to stay with her.
The girls sleep in the same bedroom.
I awoke suddenly around 1 a.m. and found Lucy's bed was empty and the door wide open. I threw on some clothes and ran out to look for her. There was a bright, full moon and heavy black clouds. Then, as the clouds passed and their churchyard became visible, I saw Lucy sitting on one of the benches. It seemed to me as though something dark was standing behind her, with a white face and red shining eyes.
I ran down the steps and got in fright.
"Lucy, Lucy!"
But by the time I reached her, she was quite alone and there was not a sign of any living thing about. When I bent over her, I could see that she was still asleep, but she was breathing heavily. I took her back to the house, and as I was putting her into bed, I noticed that there were 2 little red points on her neck, and on their nightdress there was a drop of blood.
Bienvenue à tous sur notre émission Histoire. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Gabrielle Espada. Elle va nous parler sur le monde du Moyen-Âge en Europe.
Bonjour et merci de m'inviter. Alors en premier, le Moyen-Âge commence au 5e siècle après Jésus-Christ et prend fin au 15e siècle. Pendant ce temps, il y a 3 grandes civilisations qui dominent l'Europe, et surtout le territoire de la Méditerranée. La civilisation musulmane, la chrétienne et la byzantine.
Pourriez-vous nous expliquer alors ces 3 civilisations?
La religion musulmane est monothéiste et elle s'appuie sur son livre saint, le Coran. Mohammed fut le premier prophète de cette religion et ses valeurs importantes sont les cinq piliers de l'islam. La succession de Mohammed causa une séparation dans la communauté des croyants, humains. On a d'une part les chiites et d'une autre part les sunnites. Quelques villes importantes pour les musulmans de cette époque seraient Bagdad et Cordoue. Le christianisme est aussi une religion monothéiste qui s'appuie sur la Bible. L'Occident est divisé après la chute de l'Empire romain. Donc, au IXe siècle, les Carolingiens, avec l'empereur Charlemagne, essaient d'unir ce monde occidental à nouveau. Malheureusement, ils échouent et les plusieurs seigneuries et royaumes restent en place avec leurs églises respectives qui sont sous la direction du pape. Rome veut réaffirmer une seule autorité sur le clergé et donc se font les réformes grégoriennes. C'est important de savoir aussi que les avancées techniques permettent un niveau de vie plus haut et que le centre économique se déplace des campagnes vers les villes. À peu près en 1055, le christianisme est différencié en deux, les catholiques et les orthodoxes. Pour finir, l'empire byzantin est contrôlé par le Basileus, qui a le pouvoir politique, religieux et militaire. La capitale de cet empire est Constantinople, où se conserve la culture grecque et donc où est placée la bibliothèque impériale. L'empire byzantin s'effondre en 1453 par la prise de sa capitale par un autre empire, l'empire ottoman. Or, mais je ne suppose pas que ces différentes civilisations vécurent en paix ensemble, non? Non, c'est clair. La Méditerranée est un espace de conflit entre ces grandes civilisations. Des croisades sont organisées pour la conquête des territoires. La première est organisée en 1095 pour libérer Jérusalem et la Terre Sainte, mais c'est un échec. Toutefois, en 1099, les croisés prennent cette ville sainte. Ceci crée le djihad, c'est la réponse musulmane à la guerre sainte. Entre 1144 et 1291, plusieurs croisades s'effectuent avec comme intérêt récupérer ces territoires. En Espagne, la Reconquista arrive à repousser les musulmans en 1492. Il y a eu des échanges entre les civilisations alors, non? Effectivement, les échanges entre les civilisations autour de la Méditerranée permettent aux peuples d'avoir des échanges culturels, idéologiques et économiques. Sicile, par exemple, devient un espace de transfert culturel où se conservent les traditions, les systèmes, etc. Et la cohabitation est importante de même manière, par exemple à Venise, devenant une grande puissance maritime et commerciale, elle accueille des hommes de toutes les terres, ainsi que des chrétiens, en Espagne, lors de la reconquête musulmane, qui étaient considérés comme des dhimmis. Est-ce que cette guerre sainte a-t-elle des répercussions sur notre époque et vie actuelle? Malheureusement, oui, c'est le cas. Certains attentats n'ont pour objectif que de rappeler que certains pays continuent à être en guerre et défendent à mort leurs dieux et religions. Cela fait appel à certaines guerres, malgré tout. Oui. Bon. Merci beaucoup. On espère vous avoir à nouveau bientôt dans notre programme. Et vous, écouteurs, passez une bonne fin de soirée. À demain!
Les crédits de musique utilisés sont publiés sur le site de l'école. Un grand merci à Paul Thomas pour ses créations.
Au revoir.
À bientôt.